Immersion. Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
En vérité, il est ressuscité.
Christos nos priest.
En vérité, il est ressuscité.
2 mois, jour pour jour, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde orthodoxe, en ce dimanche 24 avril, célébrait la fête de Pâques. En Ukraine, Moscou étant restée sourde à la demande d'une trêve pascale, c'est au bruit des sirènes et sous couvre-feu que les fidèles glorifiaient la résurrection du Christ. À Toulouse, nombre d'entre eux se retrouvaient soit dans la paroisse orthodoxe roumaine La Protection de la Mère de Dieu, soit dans la paroisse Saint-Nicolas le Thaumaturge, paroisse rattachée au patriarcat de Moscou. Et c'est là que le temps d'un week-end pascal, nous avions pour notre part posé nos micros. Pourquoi ? Parce que, bien que l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, en la personne du métropolite Jean de Toupna, ait exprimé à plusieurs reprises sa solidarité avec l'ensemble du peuple ukrainien et ait demandé, en vain, dans une lettre ouverte au patriarche Kirill, d'intercéder auprès du gouvernement russe, et ce pour faire cesser la guerre, une suspicion demeure pourtant. Les liens avec le patriarcat de Moscou n'ont pas été rompus. Pour comprendre et se forger une idée aussi juste que possible, il est nécessaire avant tout de se rencontrer, de s'écouter, de dialoguer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Samedi matin, veille de Pâques, dans l'église Saint-Nicolas, avenue de Grande-Bretagne, nous retrouvons Frédéric Chavot, marguillier et administrateur de la paroisse, et nombre de paroissiens, plutôt de paroissiennes, venus nettoyer, décorer, faire briller l'église pour la grande fête du lendemain, et teinter quelques douzaines d'œufs en rouge, couleur de la résurrection.
Les œufs, en fait, sont distribués à la fin des matines, c'est-à-dire avant la liturgie. Ils sont consommés après la liturgie.
Bonjour.
Bonjour. On fait les préparations pour la fête, qui est très importante pour nous. Ici, on est pour la paix, pour tout le monde, pour les Russes, pour les Ukrainiens. On n'est pas divisés. On est les frères et les sœurs et on vient à l'église pour les Juifs, pour notre Dieu.
Votre prénom, c'est ?
Natalia. Je suis russe.
Et vous êtes en France depuis un petit moment ou...
Oui, 19 ans. Et j'ai mal au cœur pour les Ukrainiens, pour les Russes. À notre paroisse, on a fait... On a organisé la collecte. Il a beaucoup de paroissiennes russes qui sont participées. Ils ont amené des affaires. On a
russes, bulgares,
oui, tous les
géorgiens.
Non, mais c'est juste que j'ai entendu un écho que de la part des Ukrainiens que ici on prie que pour les Russes, on ne prie pas pour les Ukrainiens. Apparemment, il avait un stand à la foire de Toulouse. Et en fait, je veux dire que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne veulent plus venir, mais on est là pas pour politique.
Et puis donc certaines personnes ont pu s'éloigner, mais les Français également, dans les dernières semaines. Voilà, mais on a encore des Ukrainiens, des Géorgiens.
Mais avant Français, notre paroisse, il y avait
multinationales. Elle a multinationale, multiethnique.
Oui.
Certaines personnes préfèrent aller à l'église roumaine en ce moment.
Pour eux, c'est peut-être un cas de conscience.
C'est un cas de conscience, oui. Enfin, c'est une interprétation peut-être de la situation et de la situation de la paroisse, qui est une paroisse de l'archevêché, des paroisses de tradition russe, mais pas des paroisses russes, en fait, comme on le voit parfois, sur les panneaux, simplement, en fait, qui indiquent l'église russe. Donc c'est une église de tradition russe. Et je pense que l'archevêché, l'archevêque en particulier, donc... à communiquer sur la situation, notre situation par rapport au patriarcat de Moscou.
C'est Jean de Doubna.
Jean de Doubna, oui, Monseigneur Jean.
Il s'était vraiment inscrit en faux
contre... un certain nombre d'évêques, en fait, du patriarcat de Moscou, et comme certains prêtres, en demandant une prise de position du patriarche en faveur de l'interruption de cette agression, enfin de l'agression, de la guerre.
Mais dès 2018, nous confie Frédéric Chavot, un certain nombre de fidèles avaient déjà pris des distances avec la paroisse. À cette date, l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, jusqu'alors affilié au patriarcat de Constantinople, s'était vu rattaché au patriarcat de Moscou. Pourquoi ? Comment ?
Parce que le patriarcat de Constantinople a demandé à l'archevêché de rejoindre la métropole orthodoxe grecque de France. En supprimant la structure ecclésiale, c'est-à-dire l'archevêché. Donc l'unité, en fait, de l'archevêché. Une partie des paroisses de l'archevêché ont rejoint, effectivement, la métropole grecque de France. Donc c'est le vicariat Marie et Alexis. Et une partie des paroisses, en fait, sont restées sous l'obédience de l'archevêque, qui a demandé la protection, qui a cherché différentes solutions, et qui a proposé de rejoindre le patriarcat de Moscou.
Financièrement ?
Non, ça ne change rien. La paroisse, c'est une association cultuelle. Oui. C'est l'équivalent, je dirais, d'un diocèse catholique, qui reçoit en fait les fonds qui viennent des ventes de cierges, pour un peu plus de 30 à 40%. Et le produit de la quête, de la collecte.
L'association est propriétaire.
Alors c'est l'archevêché, il y a une propriété indivise entre l'association culturelle et l'archevêché. Voilà, mais non, l'Église est parfaitement autonome sur le plan financier. Je ne reçois pas de virement, en fait, aucun fonds actuellement de l'étranger. Donc uniquement en fait les produits de la collecte. Et la nouvelle loi, en fait, la loi qui est sur les, comment dire, qui concerne les associations culturelles. Qui a été, qui a entré en vigueur en 2021, je crois. En août 2021. Nous oblige aussi à être très rigoureux dans notre, gestion, notre comptabilité, et nous obligerait à déclarer, des fonds, des donations qui viendraient de l'étranger. Voilà, actuellement, malheureusement, parce qu'on pourrait les recevoir d'autres pays que la Russie, nous ne recevons pas ou nous n'avons pas reçu de dons.
Qu'est-ce que vous préparez là ?
Non, c'est juste le gâteau sec, sans l'huile, sans l'œuf. C'est-à-dire, on peut manger aujourd'hui ça. Et si vous voulez un café...
Encore un jour de jeûne, normalement.
Ah, oui.
En principe, après la liturgie du matin... on mange des noix, des noisettes, et on prend un peu de vin pour tenir le coup jusqu'à 3 heures du matin, le repas qui va suivre la liturgie pascale. Et les personnes qui suivent de manière, un peu traditionnelle la tradition, le vendredi saint, ne mangent pas. Ils mangent de manière très très légère.
Sinon, vous préparez un gâteau spécial pour Pâques ou...
Oui, ça s'appelle Pascha. C'est un gâteau à base de fromage frais.
Et vous avez à cœur de transmettre toutes ces traditions, toute cette culture.
Oui. Et je suis du nord de la Russie, c'est-à-dire j'ai habité plus que 40 ans à bord de mer Blanche. Et là-bas, l'été, seulement 2 mois. Mm-hmm. et oui, moi, c'est la neige qui reste dans la terre. C'est-à-dire c'est un climat très fort, mais les gens très chaleureux.
Je peux compléter quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dû faire un appel parce qu'en fait, là, c'est marqué en roumain. Nous avons acheté dans l'épicerie russe, c'est ça ?
Oui.
J'ai dit, écoutez, j'ai un problème parce que c'est marqué en roumain. Oui. Je ne connais pas. Donc, et j'ai remarqué que j'ai une autre façon de parler, même si je ne connais pas les gens. Oui. Mais le fait qu'ils sont slaves ou roumaines ou l'ancienne, voilà, j'ai un sentiment de fraternité. Voilà, j'ai plus de facilité et fraternité avec mes anciens compatriotes.
Il y a une communauté russe importante ici à Toulouse
Non, justement, on se réunit tous plutôt à l'église comme avant, comme c'était la vie d'avant au village. Ouais. Tout est tourné autour de l'église, elle était au centre, donc c'est un peu pareil.
C'est pareil. Christos, vos Christi. Au fil de la matinée, nous commençons à visualiser un peu mieux les visages de la communauté paroissiale de Saint-Nicolas le Thaumaturge. Communauté interrogée, questionnée, déstabilisée par la guerre en Ukraine qui a fait apparaître des divergences, des divisions. Frédéric Chaviot.
Donc, il y a bien quelques discussions de temps en temps sur des sujets, je dirais, politiques, enfin, sur la situation, oui. Sur la position des uns ou des autres. Mais c'est en général et pour le moment relativement bref, puisqu'on comprend, enfin, les uns comme les autres, des personnes d'Ukraine comme des personnes, je dirais, pro-russes, je vais le dire comme ça, bien sûr. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faudrait dire. Enfin, en tout cas, qu'ils sont pour les actions du gouvernement russe. On a parfois des discussions, enfin, j'en ai observé quelques-unes, mais qui se sont arrêtées très vite. Devant moi, en fait.
Mais après, on essaye de ne pas parler de politique.
Et on essaye d'éviter d'aborder ces sujets. Quand la question est posée, ou quand je vais apporter de l'aide, alors, Alliance Occitanie-Ukraine, enfin, je l'ai fait, donc, on l'a fait, en fait, très rapidement au début de la crise. On a continué à collecter, donc je vais apporter de l'aide au point de collecte. Mon aide est arrivée et j'ai expliqué en fait que l'archevêché nous demandait d'organiser en fait cette aide. Et bon, ça a été, je pense, compris. Et ça n'est pas une position politique, c'est simplement une position ou une action humanitaire, humaine. Si le communiqué de l'évêque sur l'aide a été affiché à la porte de la paroisse, également disponible sur le bureau à l'accueil. Et je réponds aux questions très directement.
Ça vous questionne beaucoup, ça vous interroge cette situation, cette guerre, hein?
Bien sûr. Je ne connais pas une personne qui dit « oui, je suis pour la guerre, tout le monde contre la guerre ». Bien sûr, mais la situation elle est pas claire. Et ça, c'est... On ne peut pas juger, on ne peut pas dire « oh, il est pas bien ». Cela aussi, il n'est pas bien. Et c'est la situation à cause de quelques personnes. Ah non, c'est la situation à cause du monde. Et c'est beaucoup de choses, c'est plein de nuances. Pourquoi ça arrivait? Et maintenant, il faut, bien sûr, nous sommes tous prières pour que la guerre elle est arrêtée plus vite possible. C'est un peu...
L'Ukrainienne, Dana, que sa maman a rejoint depuis le début de la guerre, vit en France depuis quelques années. Elle vient régulièrement prier dans cette église, dans laquelle elle ne voit pas une église russe, mais l'église du Christ.
La plupart des gens qui ne sont pas venus peut-être parce que ils pensent que c'est une église de Moscou, mais c'est pas ça, parce que c'est une église... canonique, il a des canons, il a des histoires qui viennent depuis toujours. Et cette église à Saint-Nicolas, c'est une partie de l'église du monde. Et aujourd'hui, ici, nous avons prié en français, en langue aussi slave, et on a prié au Dieu. Et si on parle... de père de notre église orthodoxe, et le père c'est le chef de l'église, c'est Dieu, c'est Christ. On n'est pas des, comment on dit, archevêque, c'est ça?
Archevêque, oui,
archevêque,
c'est ça, oui.
C'est parce que dans chaque église, et surtout ici où l'église européenne, il y a aussi un archevêque, et c'est comme un archevêque de Moscou, un archevêque de Kiev. Et ensuite, c'est la responsabilité d'un archevêque. Ce n'est pas la responsabilité d'une église, hein, au sens de l'église de Dieu.
Et ici, vous êtes chez vous, vous sentez chez vous dans cette église Saint-Nicolas, vous venez de façon régulière?
Oui, je viens ici régulièrement. Et pour moi, c'est... je prie pour la paix, pour l'amour entre nous. Si on pense qu'on est un chrétien, on peut dire qu'on est obligé de prier pour nos ennemis. C'est ça la vraie croyance. Et ensuite, c'est au Dieu, au Christ de donner ce pouvoir de résister même contre la haine et avoir cet l'amour. Pour moi, je suis venue pour, comment on dit, glorifier le Christ. Aujourd'hui, c'est la fête. On dit Christ ressuscité. Mm-hmm. Et on répète en vérité. Pour nous, c'est vérité ressuscité. Mm-hmm. C'est des choses qu'on vit. Et ce qui est encore plus mal, ce qui se passe autour de nous. Si un jour on va mourir, on va rester juste face au Dieu et avec tout ce qu'on a fait de notre vie. C'est notre responsabilité personnelle. Pour on est obligé de trouver la paix de nous, de nos cœurs, malgré tout ce qui se passe. Peut-être c'est encore plus difficile pour les gens qui souffrent directement. Et ce qui reste en distance, c'est aussi une souffrance, mais pas physique, mais plutôt psychologique. Et ça, c'est important de garder, je vais répéter encore, mais c'est vraiment important de garder la paix, des dons extérieurs, partout. Pour vivre ensemble.
Votre maman arrive de Kiev ?
Oui, maman arrive de Kiev. Elle est sortie de Kiev le premier jour de la guerre, hein, quand elle a attendu le premier bombardement. Voilà, nous avons décidé que j'étais pas là. Nous avons décidé qu'elle doit sortir tout de suite parce que c'était une sensation de choses qui va arriver très grave. Voilà. Malheureusement, c'était pas pour tout le monde. C'est-à-dire que même aujourd'hui, les gens restent là-bas. Voilà, parce que c'est difficile
de leur pays, c'est leur terre, c'est leur vie.
Oui,
c'est leur vie.
Exactement, leur vie exactement. Oui. Et il y a des gens qui viennent à l'Europe et reviennent de 10 jours. Hein. Dans leur pays.
On a prié pour la paix ce matin, vraiment.
Oui, exactement. On n'est pas parlé d'autre chose.
Oui, vous me disiez, si les gens se rencontrent...
Ils finissent par s'entendre, peu importe leur origine, leur croyance, mais ce sont les gouvernements qui ne s'entendent pas.
Alain, un catholique, venu se recueillir en ce dimanche de Pâques dans une église orthodoxe, par fidélité à son épouse disparue.
Les gens finissent toujours par s'entendre et s'apprécier. C'est ce que je crois, enfin, on le voit, hein.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très difficile.
C'est vraiment très difficile aujourd'hui, je pense. Oui. Il y a beaucoup de manipulation au niveau de l'information.
Oui.
Même quand je dis à mes amis en Russie ce que se passe près de Kiev, ils ne me croient pas. Ils disent que ce n'est pas vrai ce que se passe. C'est ça ce qui fait très très mal.
Ah, oui, ça, c'est...
Surtout quand il y a des papas, mamans qui habitent en Crimée. Hein.
Oui.
Et leurs enfants habitent près de Boutcha. Qui était vraiment violée dans tous les sens et bombardée. Et les parents n'y croient pas à ces enfants. Ça, c'est un mystère pour moi, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que dans chaque de nous, il y a une croyance. Et c'est à nous, finalement, de choisir à croire. Est-ce qu'il y a Dieu ? Est-ce qu'il y a la paix ? Est-ce qu'il y a l'amour ? Est-ce qu'il y a nous ? Je ne sais pas.
Si c'est vie. Tu parles, ils ont peur de dire qu'ils
peut-être aussi.
Tellement mise sur le peuple que déjà les manifestations sont interdites. Déjà, donc je pense qu'ils ont peur de.
Merci.
Ils ont peur de qu'on relaie que pour être dans la ligne du Kremlin. Hein. J'ai l'impression.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut se rencontrer, créer des se rencontrer en vérité.
On est prêt aussi d'écouter.
Oui, d'écouter. Oui.
Voilà, d'écouter, d'échanger, d'être patiente et dans tous les sens.
Pour cause de Covid, le père André Lusky, prêtre responsable de la paroisse Saint-Nicolas le Thaumaturge, n'a pu assumer cette année tous les offices de la Semaine Sainte. Les fidèles qui souhaitaient y assister ont rejoint, pour la circonstance, l'église roumaine. Une preuve, tenir fraternel, Frédéric Chaviot.
Alors j'étais hier soir à l'église roumaine pour l'office de la mise au tombeau, qui est un office du Vendredi Saint, qui va ouvrir en fait le Samedi Saint. Et il y avait plusieurs personnes en fait de Saint-Nicolas, enfin qui ont fréquenté ou qui fréquentent Saint-Nicolas. Et pour le dimanche du triomphe de l'orthodoxie, le premier dimanche de carême, du grand carême, toutes les paroisses de Toulouse se sont rassemblées, la paroisse Saint-Nicolas, les quelques paroissiens qui vont à l'église serbe lorsqu'un prêtre vient de Paris, un prêtre russe.
Une paroisse serbe qui se trouve
avenue de Lavore.
Ouais.
Donc toutes les paroisses orthodoxes, tous les orthodoxes de Toulouse se sont rassemblés à l'église roumaine.
Donc il y a un désir d'unité.
Non, c'est en fait la tradition, c'est-à-dire qu'il y a une unité. L'Église orthodoxe est une sainte.
Il y a différents patriarcats.
Ce sont des différences d'organisation territoriale. Le référent en fait d'une église locale, le référent d'une église sur un territoire, c'est l'évêque. Donc les métropolites, c'est-à-dire des évêques qui ont des fonctions, je dirais, un tout petit peu de coordination, je vais le dire comme ça, je parle un peu plus large, et le patriarche ne sont finalement ont des fonctions qui sont distinctes de l'évêque. L'évêque est vraiment le référent et le pasteur de son église. Et c'est ce qu'a déclaré ou a expliqué Monseigneur Jean lorsqu'il a fait un communiqué donc il y a à peu près une semaine pour expliquer pourquoi quelqu'un qui quittait finalement l'église, cette église-là, quittait plutôt l'archevêché plutôt que le patriarche. Le patriarche rassemble en synode les évêques de sa juridiction pour traiter des questions qui doivent être traitées, je dirais, par l'ensemble des évêques. L'évêque est vraiment... alors, c'est pas la tête de l'Église. La tête de l'Église, c'est le Christ. Mais c'est l'évêque qui est le pasteur de l'ensemble des paroisses qui sont sous sa juridiction, obédience. C'est ce qui fait que, effectivement, même en étant dans une situation dans laquelle la position personnelle du patriarche est actuellement engagée et contestée par différents évêques d'Ukraine, d'Europe, d'Europe occidentale pour l'archevêché, nous restons quand même, pour le moment, en lien avec le patriarcat, en faisant mémoire du patriarche, parce que ce qui est finalement rappelé, c'est le lien ecclésial, le lien en fait qui nous relie à l'ensemble des autres paroisses du patriarcat de Moscou.
Oui, mais si vous-même profondément vous sentez qu'il y a des choses qui pour vous sont inacceptables, tout ce qui se déroule en ce moment en Ukraine, c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter.
C'est ce qui apparaît, c'est ce qui est déclaré sur les communiqués, enfin dans les différents communiqués, dans les différentes interviews de l'archevêque. Mais il y a deux questions. Enfin, la condamnation de la guerre et je dirais de la situation qui est créée pour les différentes victimes et l'organisation de l'Église, le lien que nous avons conservé avec le patriarcat de Moscou. Mais finalement, il faut distinguer, disons, l'Église russe et les positions du Saint-Synode, qui sont les positions de l'Église russe, et qui n'ont pas... Le Saint-Synode ne s'est pas prononcé, en fait, comme le patriarche Kirill sur la situation, et les déclarations du patriarche sont plutôt ambiguës. On peut l'interpréter comme un soutien à apporter, aux forces armées contre des forces obscures qui seraient les forces ukrainiennes. Bon, le Saint-Synode, qui est en fait l'organe finalement de direction, ne s'est pas prononcé. Donc c'est une position personnelle qui n'engage pas le Saint-Synode, c'est-à-dire l'Église de manière, je dirais, officielle en quelque sorte, et qui n'engage pas l'archevêché, ni bien sûr, et ni à plus forte raison, les prêtres ou les fidèles. Donc, il y a eu des protestations de prêtres russes en Russie, de prêtres du patriarcat de Moscou et des pétitions, en France de prêtres du patriarcat de Moscou. Et il est clair en fait que ces personnes-là ne se sentent pas engagées.
Disons que vous n'approuvez pas, vous n'êtes pas...
C'est plus fort que ça. Cette situation est intolérable. C'est ce que dit l'évêque. Il demande, et nous demandons à travers lui, que le patriarche prenne position contre la guerre et pour faire arrêter cette situation. D'un point de vue personnel, je trouve intolérable que l'offensive, je dirais, la plus importante ait lieu pendant la Semaine Sainte et que pendant les célébrations pascales, il n'y ait pas d'interruption en fait de l'office. C'est une demande, bien sûr, qui est partagée par les paroisses du patriarcat de Moscou en Ukraine, par le métropolite Onufre, qui proposait une marche vers Mariupol pour permettre l'évacuation des personnes, des civils comme des blessés militaires qui y sont encore. Moi je suis français, je ne suis pas russe, je ne suis pas russophile, j'aime beaucoup en fait toutes les personnes qui sont ici, toutes celles qui ne sont plus ici ou qui ne viennent plus temporairement. Il n'y en a pas beaucoup, je dirais, mais je n'ai pas compté.
Les fidèles, ils se sentent
concernés par cette guerre ?
Concernés, oui, bien sûr, ne serait-ce qu'au travers de, comment dire, les Russes et les Ukrainiens, bien sûr, les Géorgiens aussi, oui. Puisque ils ont beaucoup manifesté, ouais. Et les Français, bon, non seulement sont touchés par la situation, mais aussi par le risque, l'instabilité, enfin, la tension, parfois, pas sensible, je dirais, pendant les prières, mais en dehors, je dirais, dans les moments de... Quand on prend le café ensemble, on est quand même, comment dire, on sent qu'il faut faire attention. Je pense qu'il y a très peu de manifestations, mais il y a quand même une prise de conscience de chacun, et une conscience collective, que la situation est, comment dire, est terrible,
et
qu'elle est inacceptable. Et donc, en fait, ça, évidemment, donc... certaines amies, certaines personnes qui étaient plutôt en groupe échangent moins, me l'ont dit. Certaines personnes, en fait, se sont vues reprocher des attitudes vraies ou leurs, comment dire, leurs idées, bien ou mal interprétées. Bon, je dirais que ça se passe plus dans la communauté et autour que pas dans l'église. Et c'est là peut-être que, enfin, c'est sans doute un point, je dirais, d'espérance, je ne vais pas dire d'espoir, mais d'espérance, parce que la communauté est quand même résiliente et qu'elle est intervenue auprès des personnes qui pouvaient avoir besoin d'aide.
En
prenant c'est aussi l'enseignement du Christ. Je pense que ce n'est pas que l'humain. Quoi.
Christ est ressuscité.
En vérité, il est ressuscité.
N'oublions jamais que ce soit gravé en lettres d'or et brûlant comme le fer rouge, que le Christ est ressuscité, qu'il est l'unique Dieu, l'unique Sauveur, et que par lui nous irons à Dieu, car Dieu, par lui, est venu à nous.